mourir pour toi.
AKB. Je portais Dalken sur le dos et j'avais l'impression que c'était lui qui me portait, qu'il me donnait les ailes nécessaires à notre mise en sécurité. Pas besoin de regarder à gauche ni à droite pour traverser la rue. Les carcasses calcinées de camions, taxis ou mobylettes bloquaient toute velléité de circulation et l'idée ne serait venue à personne de faire vrombir un moteur sous l'orage. Une pluie de fer et de feu zébrait le ciel par intermittence. Entre deux, il valait mieux scruter les toits, guetter un reflet de métal dans le soleil aveuglant. Dépêchés en éclaireur, les snipers étaient capables de se positionner à l'affût, même sous les mortiers de leur propre camp. Kamikazes décérébrés, zombies fanatisés, robots à tuer sans âme, plus des humains. Que leur bon Dieu les rappela au bercail, en leur promettant le harem, ou les protégea, c'était toujours lui qui décidait, prétendait-il. Il ne restait plus grand-chose du quartier, énième no man's land, rendu au rat. La ville était ruine. L'artillerie adverse paraissait viser plus à l'ouest, désormais. Dalken pesait son poids. Peut-être une fois et demie le mien. Je n'étais pas un petit format, moi non plus. Les copines me surnommaient Kesmezin, la grande. Les bras de mon camarade de lutte pendaient de chaque côté de mon cou. Je les enserrais contre ma poitrine. Je n'avais pas le cœur à trouver ça agréable. Nous n'avions jamais été aussi proches. J'aurais bien aimé, pourtant, me coller à lui, au campement, lors d'une soirée de repos. Lui soufflait à l'oreille les mots tendres que j'avais oubliés et qui me revenaient en cascade, maintenant qu'il avait fait irruption dans ma vie. Prendre le temps de lire l'intégralité de ses tatouages, qu'il m'explique leur sens, dans la langue de son peuple. Qu'il lise à son tour mes scarifications guerrières, avec ses doigts et sa langue. L'étoile gravée sur mon sein droit réclamait l'hermine de son sein gauche. Son sang se mélangeait à ma transpiration. Nos cheveux se mêlaient sur mon front. Je tentais de les chasser de mes yeux en soufflant. Je ne pouvais pas me servir de mes mains, ni m'arrêter pour reprendre haleine. Je lui parlais doucement, comme à mon fils, avant, quand Mako était chagrin de devoir se coucher tôt, quand je n'avais pas le temps ni la force de lui lire une histoire après une journée harassante à la caisse de la station-service. Avant. Avant la haine. Avant la guerre. Du moins cette guerre-ci, qui est alors devenue mienne. Avant l'explosion de la maison, ce soir maudit où j'étais la seule absente. La session de gynéalogie s'était prolongée plus tard que d'habitude, à l'Académie des femmes du quartier. Berfine et moi avions l'art de faire durer les discussions. D'accord, la révolution ne devait pas être bâtie pour les femmes, mais par les femmes. Mais le diable se nichait dans les nuances, comme on nous le répétait à l'envi. Le meilleur moyen était-il la mixité radicale ou la séparation émancipatrice? Nous avons entendu la déflagration depuis la salle communale. Mako et son père Alaz étaient depuis de tous mes rêves. Je susurrais à Dalken de s'accrocher, que Nasrin allait s'occuper de lui. Nasrin était infirmière dans le civil. Elle était douée pour faire du bien. Elle nous maternait. Dalken ne répondait rien. Nevrose, la chef, avait essayé de me retenir. Berfine avait voulu m'accompagner. À deux, nous aurions pu traîner notre camarade par les aisselles. Nevrose avait refusé. La dernière bombe n'était pas encore tombée. J'avais quitté l'abri malgré le contre-ordre. J'avais foncé, récupéré Dalken derrière la camionnette qu'il était en train de décharger quand l'attaque avait débuté. Il gisait dans les gravats, inconscient. Sa respiration était ténue, sa bouche saignait. Je ne pris pas la peine de ramasser sa jambe, posée comme en vitrine sur le tas de décombres. Elle était fichue, et nous n'avions pas de chirurgien pour ressouder à leur propriétaire survivant les morceaux d'humains dont la ville était parsemée. Le local de stockage avait été soufflé. Peut-être avec du monde à l'intérieur. Je tendis l'oreille. Le fracas du pilonnage avait laissé place au silence. Le vent brûlant évacuait rapidement la poussière. Nous verrions bientôt clair pour compter nos morts. C'était mon second front de Kobané. La première fois, en 2015, nous avions libéré la ville de ses cloportes de Daesh et enfoncé les clous de la contre-attaque libératoire. Nous l'avions presque réduit en cendres. Le Ralifa renaissait pourtant des braises attisées par la lâcheté occidentale. Dès que nos alliés américains nous avaient lâchés, les turco-djihadistes s'étaient engouffrés dans la brèche. Nous combattions sans espoir de les repousser. Ils étaient trop puissants. Ça faisait longtemps, des siècles, qu'ils voulaient nous éradiquer. Un Kurdistan réuni, souverain et progressiste, était leur pire cauchemar. Nous mourions tous, mes frères, YPG, toutes mes sœurs, YPJ, car la dernière ou le dernier vivant d'entre nous ne capitulerait pas. Choisir la vie ne faisait pas partie de notre romantisme belliqueux. La communauté mondiale verserait des larmes de crocodile, arguerait de son impuissance à convaincre un dictateur sourd, cacherait si peu ses intérêts stratégiques et financiers à laisser faire. La soif de pétrole était la leucémie du Moyen-Orient. Justice économique, égalité des sexes, laïcité, liberté individuelle dans l'intérêt du collectif, écologisme constitutionnel, notre état de facto, le Rojava, théorisait tout ce qui donnait des boutons aux libéraux mondialistes comme aux totalitaristes religieux. Il nous classait parmi les organisations terroristes alors même que nous en délivrions l'Occident. L'homme que je portais sur mon dos faisait partie de ces rares Européens à avoir rejoint notre combat pour le confédéralisme démocratique et notre devise « Jin, Jiyang, Azadi, femme, vie, liberté ». Loin, le temps où les intellectuels occidentaux battaient unanimement le pavé et s'engageaient eux-mêmes dans les brigades internationales pour bouter le fascisme hors d'Espagne. Il s'appelait Olivier. Joli prénom pour un combattant de la paix. Il était professeur et fermier. Il enseignait la langue bretonne à mi-temps. Il élevait des moutons entre la mer et une rivière qui portait le nom d'une bière belge connue même au Kurdistan. Dalken était son pseudonyme. Ça signifiait « continuer » en breton. Il m'apprenait des mots et des formules « Dalken braise ». Continuer la Bretagne, la faire vivre partout, la sublimer, là-bas, ici, le rêve de sa jeunesse fougueuse. Son canton d'origine se disait Guélo, les meilleurs. Dalken était un garçon humble. Nous avions bien ri au moment de repli, lorsque, affalés sur les nattes, jusqu'à l'aube, nous vidions des canettes de soda et nous passions le haschich de la cohésion. Le Breton nous contait ses premières actions de résistance civique, taguer au coltard des panneaux indicateurs, investir une gare pour réclamer une signalétique bilingue, squatter la permanence d'un député traître à ses électeurs. À chaque société, ses valeurs à défendre. Certaines peuvent paraître plus futiles que d'autres. C'est résister qui compte. Sûr que le voyage de notre copain jusqu'à Kamishli lui avait fait faire un bond dans les méthodes d'engagement. Il plaisantait que les juges français étaient intransigeants avec ceux qui s'attaquaient au mobilier urbain. Ici, ces juges seraient devenus schizophrènes. Dans sa langue, mon prénom avait aussi un sens. Je m'appelle Ezel. Ezel, m'avait-il dit, c'était le membre d'une équipe, d'une fraternité. J'étais né pour rencontrer un jour un Breton, pour le porter sur mon dos, dans une rue, sous la mitraille. Ça aurait aussi bien pu être l'inverse. Il nous avait appris sa danse, la gavotaine. Il chantait des mots rugueux et nous répétions le rythme en fredonnant. Il cognait du pied, fermait les yeux et nous déclarait se sentir en accord avec notre terre, ocre, sèche, rocailleuse, alors même que la sienne était verte, bleue et grise. Il disait « glace ». Moi qui n'avais jamais vu l'océan, j'aurais bien échangé mes montagnes pour une promenade dans la mer, sur le dos de Dalken. Coude contre coude, genoux levés en cadence, nous fermions la ronde, sans considération d'origine, d'âge ni de sexe. Exactement comme chez nous, le goven des mariages soude les épaules. Nous faisions cercle, nous faisions groupe. danser sur les ombres de nos défunts, célébrer la vie ensemble. Scellé à Dalken, l'éternité redevenait possible. Dalken était l'un des plus anciens du Tabur international. Le bataillon rassemblait Belges, Allemands, Français, Grecs, Turcs, Alévis, Circassiens, Arméniens, Espagnols, Albanais, Lazes et Arabes. Tous en défaut pénal, dans leur pays d'origine, depuis leur enrôlement à nos côtés. Leur migration militante. Peu leur importait. Ils dressaient le poing sur les photos, visages découverts. Ils étaient là par solidarité internationaliste, quelle que fût leur idéologie, marxisme, léninisme, maoïsme, anarchisme ou oxaïsme. Dalken était anarchiste et indépendantiste breton. L'enracinement mène à l'universel. La solidarité envers la révolution kurde menait à 2 mois d'entraînement et de philosophie politique en camp d'intégration. Maniement des armes le jour, débat et cours de Kurmanji le soir. Sans oublier le stage de remise à niveau féministe dans les montagnes du Kandil. Chacun de nous avait une devise gravée sur une plaque de cuivre portée autour du cou et qui pouvait aussi servir d'épitaphe. Celle de Dalken. Je suis venu ici pour aider les Kurdes à faire leur révolution, pas pour importer mes idées et imposer ma révolution. Nous étions nombreux autour du feu de camp. J'ai entendu cette phrase, exprimée dans un anglais maladroit et repérée dans l'assemblée celui qui l'avait prononcée. Il m'a souri. J'ai rougi. Est-ce que le désir est une faiblesse réservée au temps de paix? Dalken avait vécu son baptême du feu à Raqqa et gagné sa première grande bataille. Il était resté quand la coalition d'Erdogan avait attaqué Afrin. Beaucoup n'avaient pas eu le même culot. 3 semaines auparavant, il rejoignait notre bataillon mixte en tant qu'opérateur lance-roquettes. Il s'adaptait parfaitement aux principes d'autodiscipline, d'autocritique et de rotation des commandements de notre armée. Son impatience à combattre révélait un tempérament jusqu'au boutiste qu'il fallait savoir contrôler. On ne s'opposait pas efficacement aux fous de Dieu en jouant les fous de guerre. Dalken, alliage de puissante énergie et de douceur. Au veillé de l'arrière, il nous chantait des complaintes bretonnes. Nous avons les mêmes dans notre langue. J'étais amoureuse. Sa timidité à mon égard m'attristait. J'étais pourtant séduisante, à ce qu'on racontait. Robuste, mais équilibrée, visage serein en toutes circonstances, fossette ciselée contre la peine, contraste original entre des sourcils très bruns et des yeux verts clairs, et ce dont j'étais la plus fière, mes dents blanches, jamais gâtées par la surconsommation de chai. Des gars et des filles que ni la promiscuité ni la gravité de la période n'arrêtaient s'étaient frottés à mon veuvage, en vain. J'attendais Dalken, je le savais maintenant. Nous étions libres tous les deux. Nous savions tous deux à quel point le présent était précieux. Nasrin plaisantait que mon chouchou préférait sûrement les garçons. Je l'agonisais d'injures. Sans doute était-il simplement trop conscient de la précarité de nos existences pour s'attacher. Le jour où Dalken avait cassé ses lunettes en tombant d'une palissade, j'avais usé de mon réseau pour lui en trouver d'autres, à peu près ajustés à sa vision. Il disait que j'étais son ange gardien. Je me contentais mal de ce statut. Il fallait donc que je fusse un ange gardien avec des reins solides. Il me reste 50 mètres à parcourir. Les autres filles m'encouragent. Elles se positionnent en couverture. Nevrose fait un signe de tête à Berfin. Ma meilleure amie escalade la barricade. Se rue à notre rencontre. 2 détonations. Une douleur fulgurante. Dalken tombe de ma hauteur. Je m'allonge au sol, là, sur le toit. Le vacarme des répliques, chanson vindicative des Kalachnikov. Ma cheville est en charpie. Je saisis le col de chemise de mon frère d'armes. Je marche sur les genoux, je le traîne comme un sac de sable. Je contourne le corps sans vie de Berfin. Berfin ! Je franchis le soupirail de la cave, m'effondre sur une palette haletante, fiévreuse. Nevrose m'engueule, elle a raison. Nasrin prend mon pied en charge. Je demande « Dalgen ». Elle ne lève pas les yeux vers les miens. « C'est fini, tu le savais bien. » Je m'efforce de contenir mon sanglot. « Oui, mais lui n'était pas obligé d'être là. Il est mort pour toi, pour moi. On devait le ramener du côté des humains. » Cette fois, elle me fixe dans un sourire gêné. « Vous étiez ensemble ?» Cette fois, je pleure. « Non, nous n'avons pas eu le temps de faire l'amour. Seulement la solidarité. »